Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, j'ai le plaisir d'accueillir une auteure, recompositrice et interprète au parcours riche de voyages, de musique, de couleurs, d'engagement et d'expériences qu'elle a partagées sur déjà 4 beaux albums, dont le dernier, DNA, sorti fin 2019, qui a été encensé par la critique. Nous allons faire un peu plus connaissance. Bonjour Flavia Coelho et bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour.
Je suis ravie de te rencontrer pour parler de ton riche parcours, très riche, parcours de vie et parcours d'artiste. Les deux sont riches, vraiment. À la sortie de ton album DNA fin 2019, tu disais « Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans la vie ». Peu de temps après, nous entrions dans cette pandémie mondiale de la Covid-19. Aujourd'hui, donc, nous sommes en juin 2021. Comment vas-tu ?
Je suis en bonne santé, donc c'est une très bonne nouvelle pour ma personne au niveau solo. Mais je suis indignée par rapport aux écarts qui se sont augmentés, les écarts sociaux. Je suis indignée de ce qui se passe dans mon pays. Il y a plus de 460 000 morts au Brésil. L'ingérence de la pandémie est catastrophique. Je suis indignée par les féminicides qui n'arrêtent pas d'augmenter. Je suis indignée par toute cette violence et tous ces quiproquos, ce manque de discussion, de discernement les uns envers les autres. J'ai l'impression que plus on avance, plus on est en train de revenir en arrière. L'Internet est arrivé, nous avons tous les moyens de s'informer et les gens ils s'enferment de plus en plus. Donc je suis, Dieu merci, en bonne santé, mais je suis aussi indignée par toutes les inégalités que je vois dans ce monde aujourd'hui.
Oui. Alors, il y a déjà plusieurs interviews sur le net dans lesquelles tu racontes ton enfance, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais quand même, pour celles et ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux nous en retracer les grandes lignes? Où tu es née, où tu as grandi, puisqu'il y a eu des endroits différents, et puis ton environnement, et puis les quelques grandes ruptures qui ont marqué aussi cette période?
Bien sûr. Je suis née dans les années 80 à Rio de Janeiro, d'une famille d'une origine très simple. Mon père était docker, ma maman était coiffeuse, maquilleuse. Nous avons grandi dans différents endroits parce que mes parents ils voyageaient beaucoup à vue de leur métier. Ma mère était une grande voyageuse aussi. Mes parents ils viennent du nord-est du Brésil. Je suis née à Rio de Janeiro, de cultures qui sont assez différentes. Sachant que les gens qui viennent du nord-est du Brésil et qui viennent à Rio, ils sont quand même très souvent stigmatisés, ils subissent beaucoup de préjugements, de jugements sociaux du fait qu'ils viennent du Nord-Est. C'est une espèce d'immigration dans la migration. Une fois, j'en ai dit même que parfois j'étais immigrée dans mon propre pays. Parce que quand on est né à Rio de Janeiro, du parent du Nord-Est, il y a toujours des vieilles blagues, de ce petit racisme de tous les jours. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, mais j'ai grandi là-dedans.
Ils sont méprisés, les gens du Nord-Est ?
Carrément, ouais. Ah oui. Carrément. Aujourd'hui, beaucoup moins, Dieu merci. Mais avant, c'était vraiment très compliqué. Mais on apprenait à vivre avec, en fait. On a fini par s'habituer, comme on finit par s'habituer, vous savez, à ces petites blagues qu'aujourd'hui, le politiquement correct a pu arrêter un peu ça. Justement, de donner conscience aux gens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que ça peut être blessant. Donc, je grandis là-dedans, mais aussi dans un moment de beaucoup d'amour, une famille quand même qui avait beaucoup d'amour. Ma mère, elle était coiffeuse maquilleuse, mais surtout, elle était coiffeuse maquilleuse pour les premières communautés LGBTQ, qui à l'époque, il n'y avait même pas ce nom-là. À l'époque, ça s'appelait le public GLS. Ça s'appelait, on donnait plusieurs noms, mais il n'y avait pas encore la sigle. Donc, j'ai grandi dans un milieu, voilà, avec où maman nous a appris toujours la tolérance, la liberté, aimer les uns aux autres, ne pas voir les différences dans ce cas d'école. Et aussi un environnement très musical, très musical, c'est-à-dire dans le pays, parce que dans ma famille même, il n'y avait pas de musicien, ni mon père, ni ma mère. Et donc, à l'âge de 14 ans, je séchais l'école, j'ai vu une annonce qui cherchait une chanteuse. J'avais très envie de chanter, très envie vraiment de devenir chanteuse. J'ai vu cette annonce, j'ai traversé la ville de Rio en bus avec des copains et j'ai fait le casting. J'ai passé le casting et plus jamais j'ai arrêté de la musique.
Ça m'a fait penser ce passage dans ta biographie. J'avais fait une interview de Fatoumata Diawara, qui, elle aussi, elle était ado et il y avait une envie irrépressible de partir sur les routes dans une troupe, dans quelque chose d'artistique. Et elle a fui sa famille pour rejoindre une troupe. Toi, c'était un casting à 14 ans. Et est-ce que tu sentais une envie comme ça, irrépressible, de rejoindre un milieu artistique ? Qu'est-ce qui, à 14 ans, en fait, te motiver?
Je crois que c'est la conscience. J'ai très tôt eu la conscience de vouloir être libre, en fait. Je ne voulais pas du tout être dans ce carcan familial qui le Brésil imposait et impose un petit peu jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire le mariage, les enfants, la maison, la religiosité, l'obédience suprême aux parents. Donc c'était quelque chose qui m'a toujours dérangée. Tout était tracé, c'était comme ça dans tout mon entourage. Et comme j'avais grandi une partie de ma vie avec une maman qui était très libre, qui était vraiment précurseur dans ce qu'elle faisait dans le quartier, parce que personne voulait ni coiffer, ni maquiller, ni aider les personnes LGBT à l'époque. Donc, quand ma maman est décédée, d'ailleurs elle est partie très tôt, j'avais à peine 11 ans, elle m'a laissé quand même cet héritage que je devais être une femme libre, que je devais apprendre à parler des langues, que je devais pas avoir peur des gens, etc.
Donc, indépendante.
Indépendante. Elle m'avait déjà mis la petite graine féministe alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était le féminisme. Et d'ailleurs, ça est venu aussi beaucoup plus tard. Donc je crois que c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de voyager. En fait, ça aurait pu être la musique. Au départ, je me disais, bon, peut-être je vais être hôtesse de l'air, mais à l'époque, j'étais trop petite. Ils prenaient que des nanas de 1m80. Et donc,
Savais-tu que tu ne ferais pas 1m80?
Je savais que je n'allais pas faire 1m80. mais je savais qu'avant tout, que je n'avais pas peur des gens et je n'avais pas peur de l'apprentissage et j'étais toujours quelqu'un de très curieuse. Donc, c'est qu'avec les voyages, les autres, en fait, qu'on grandit par les autres. Moi, j'ai toujours eu ce truc en tête que c'est grâce... Je suis la personne que je suis parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont donné plusieurs insights et petits chemins par-ci, par-là pour que je puisse former ma personnalité.
Et donc, il y a eu quand même des grandes ruptures dans ton enfance. Que perdre une maman à 11 ans, c'est quand même... C'est dramatique.
C'est dramatique. On ne se rend pas compte.
Plus le déménagement. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? Oui, on ne se rend pas compte.
On ne se rend pas compte parce que quand on est enfant, tout ce qu'on veut, c'est de jouer. Même si j'avais vécu la maladie de ma mère, donc c'était compliqué. On grandit d'un coup, en fait. On dit que pour les garçons, on peut avoir carrément une barbe et que pour les filles, on peut avoir carrément les rides quand on perd une maman très tôt parce qu'on vieillit d'un coup. On n'est plus dans le cercle normal de la vie, ça veut dire la maman qui partira plus tard et tout, etc. Oui. Donc ça, c'était une grande rupture, mais que je me suis rendu compte au fil des années, plus tard en fait, plutôt voir à l'âge de 30 ans, c'est là vraiment que je me suis rendu compte que ça y est, il y a un truc vraiment qui me manque. Donc là, il y a tout un travail et tout, une thérapie qui vient ensuite, etc. Les déménagements, quand j'étais petite, c'était quelque chose de très dérangeant, bien sûr, parce que quand on est enfant, on s'accroche à peu de choses, aux peu de copains, à la prof, au petit parc qu'on va jouer.
Tu avais des frères et sœurs ?
J'ai des frères et sœurs, oui. Ouais, qui sont beaucoup plus grands que moi. Et donc, qui ont aussi grandi. Dès qu'ils ont grandi, ils ont chacun fait leur vie. Mais ça faisait partie de la façon laquelle ma mère nous a enseigné. Elle nous a enseigné pour être des êtres libres.
Oui.
En fait, nous a élevés pour ça. Mais plus tard, pareil, je remercie à ma mère de m'avoir élevée dans cette façon-là, de déménager un maximum. Et c'est ça qui m'a donné le goût du voyage, de la curiosité, des rencontres et tout ça.
Oui, parce qu'après, évidemment, avec toute cette diversité, cette richesse, quand on retombe dans quelque chose de routinier ou les rencontres sont réduites, ça, c'est sûr qu'on voit la différence. Alors, quelles ont été les grandes étapes pour toi dans la musique ?
Alors, bon, il y a première, ce groupe a vraiment desséché l'école et dire je vais devenir musicienne, c'est ça que je vais faire. C'est le premier grand pas. La suite, c'était d'avoir refusé de faire les grandes études parce qu'au pays, c'était très simple. Soit on se marie, soit on fait des études pour se marier ensuite. Et à l'époque, grâce au travail de mon père, il pouvait avoir une bourse pour moi pour que je fasse des études. Et à l'époque, à 17 ans, quand je fais passer mon bac du Brésil, il m'a dit, bon, bah, t'as passé ton bac, bah, maintenant tu fais ce que tu veux. Mm-hmm. Et moi, j'ai choisi de devenir chanteuse, alors qu'il y avait toute une espèce d'animosité autour quand même, parce que voilà, tout le monde dit, t'es chanteuse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre la nuit, tu vas être entourée des hommes et tout ça. Donc, t'as tous ces préjugés-là qui... j'avais dans mon sac à dos avec moi, déjà de la famille, tout l'entourage qui dit que ce que tu fais, c'est pas bien, c'est des trucs de prostituées, de vivre la nuit, etc. etc. Donc ça, c'était très compliqué à vivre, mais je savais exactement ce que je voulais, donc ça ne me touchait pas plus que ça. Après, il y a eu la grande rupture, c'était celle de quitter le pays quand même, de venir vivre en Europe, qui pour moi, c'était une expérience comme naître à nouveau, parce que je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne, j'avais une personne qui m'avait accueillie, que c'était un cousin longtemps avec sa famille, qui m'ont accueilli, qui ont vraiment ouvert les portes pour moi ici en Europe. Mais c'était quand même une énorme rupture. Il faut savoir que le climat, ce n'est pas du tout le même. Les personnes ne sont pas du tout les mêmes. Au Brésil, tout va très vite. On a une façon d'accueillir et de parler, etc., qui est différente vraiment de celle d'ici. Donc, c'est tout ça, ça fait partie d'un apprentissage. C'était une grosse rupture.
Et du coup, si ce n'est pas indiscret, tu es venue ici pour quoi ?
Je suis venue ici pour faire un premier disque, en fait. Parce que j'ai été chanteuse-interprète au Brésil pendant des années. Mm-hmm. Donc, j'ai fait 14-25 ans à chanter dans des groupes, des balles, voyager tout le pays, le Brésil, etc. Mm-hmm. Mais je n'avais jamais fait écrire des chansons à moi. Et au Brésil, voilà, on vit quand même dans une société qui est très patriarcale, patrialiste, je ne sais pas, c'est-à-dire
oui,
que népotiste, ça veut dire aussi que les parents engagent leurs fils, qui engagent leurs petits-fils. Donc c'était compliqué pour moi de vivre de ce métier. À l'époque, l'Internet n'était pas ce boom qui était aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se produire et faire des choses où le Brésil n'avait pas ça. Je n'étais pas la fille de Gilberto Gil, de Paulo Coelho. Je n'avais pas assez de connaissances dans ce niveau-là de maison de disques, etc. Et surtout, la musique qu'il y avait au pays à ce moment-là ne me plaisait pas du tout. Même si c'était la musique que j'avais grandi avec, c'était quand même une musique très sexiste. C'était quand même une musique qui, je sais pas, qui mettait les femmes dans un niveau auquel ne m'appartenait pas. Malgré tout ça, c'était quand même mon entourage. Et je sais que si j'ai continué dans cet entourage-là, j'allais faire ce genre de musique.
Oui.
Parce que c'était mon environnement.
C'était tracé aussi.
C'était
ça.
Tracé aussi.
Oui.
Et autre chose aussi, notamment, c'est que même si j'ai étudié la bossa nova, c'est la musique de ma vie, etc., je n'étais pas née dans les années 50. Donc, je ne me voyais pas refaire de la bossa nova au Brésil, surtout quand on sait que Caetano Veloso, Gilberto Gil et João Gilberto, à l'époque, marchaient encore au bord des plages, j'étais très bien, ils faisaient des disques. Donc, c'était la concurrence, c'était très compliqué.
Oui, pour s'affirmer après, pour s'affirmer, en passant derrière,
c'était pas facile. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, j'étais venue une première fois à Paris avec une compagnie de spectacles pour faire des shows, des concerts. Je suis venue, je croisais son cousin et sa femme. Ils ont dit, bah, si tu veux venir, on te donne un coup de main. Le temps est passé. Je me suis organisée plus ou moins au pays. Et je me suis rendue ici en 2006 pour commencer cette aventure.
Voilà, une belle aventure alors, puisque effectivement, tu as pu faire un album et avec la musique que tu souhaitais, même si le début n'a pas forcément été très facile, parce qu'il fallait aussi, ici, s'affirmer pour ne pas produire une musique qui était celle qu'on attendait de toi.
Complètement. Ça, c'était le deuxième défi aussi. Déjà, trouver ma patte, trouver ce que je voulais faire. Donc, ce voyage, cette idée déjà de traverser la mer, c'est un disque déjà en soi. Ensuite, apprendre à parler une langue, apprendre à connaître une société à laquelle je ne m'étais jamais confrontée avant. Tout ça, ce sont des nouveaux thèmes. Mm-hmm. Ensuite, j'ai fait la rencontre des personnes extraordinaires comme Bika Bika Pierre, un musicien d'origine camerounaise qui m'a ouvert les portes de l'Afrique. Ensuite, je travaillais dans un cabaret de musique du monde où j'ai rencontré des musiciens du monde entier. À nouveau, j'ai pu retrouver la musique brésilienne, ma musique, leur musique et construire la mienne. Une fois toute cette chose-là était prête, je commence à enregistrer l'album, je tape les maisons de disques, les gars m'ont dit non, trop compliqué, chanteuse brésilienne, il faut qu'elle fasse de la bossa nova, qu'elle joue de la petite guitare, etc. etc. J'ai joué la guitare, j'avais la fleur sur les cheveux, mais je ne voulais pas faire cette musique-là. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre avec la maison de disques discographes qui existait encore à l'époque, qui a relevé le défi d'accepter une chanteuse brésilienne qui chante autre chose que la musique que les gens ont l'habitude de connaître. Et ça marchait tout de suite, en fait, tout de suite. Des grandes radios, des grands réseaux dans ce genre de musique, qui travaillent ce genre de musique, qui a pris le disque et c'était trop bien.
Oui. Et aujourd'hui, donc ça fait combien de temps en fait que tu as quitté le Brésil maintenant ?
Je suis partie en 2004-2006.
Oui.
Donc nous sommes en 2021.
Oui.
Et moi je suis très mauvaise en mathématiques.
Ça fait une quinzaine d'années.
Voilà, 15 ans. Ouais. 21 juin cette année va faire 15 ans je crois.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah, le jour de la fête de la musique.
Je suis arrivée le jour de la fête de la musique. Donc vous imaginez, je quitte le Brésil, je vais faire des disques. J'arrive en France le jour de la fête de la musique.
Et qu'est-ce que représente le Brésil aujourd'hui dans ta vie ? Parce qu'on sent que c'est toujours très présent, évidemment.
Bien sûr, je suis brésilienne à 100%, des parents brésiliens. Je vis au Brésil, je dors au Brésil. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute les infos tous les jours. Je suis au courant de pratiquement tout de ce qui se passe, et politiquement, et socialement, un peu de foot. Mais... pour moi, je suis Brésil, en fait. Depuis toujours, je revendique de chanter dans ma langue, alors que je mélange beaucoup de styles. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est important. C'est mon seul gros héritage, je crois, vraiment, du Brésil. Parce que je me considère une citoyenne du monde. Là où je suis bien. Mm-hmm. Je vais au continent africain, je vais à Mozambique, je vais au Sénégal, je vais au Mali, je vais partout. Je suis heureuse. Je vais en Australie, je suis heureuse. Je vais en Espagne, je suis heureuse. Je vais dans le sud de la France, j'adore, je suis bien accueillie. Donc, pour moi, je viens de partout. Je peux venir de partout, mais la langue, le brésilien, le portugais brésilien, pour moi, c'est mon héritage. C'est lui que je revendique le plus.
Alors, donc, le Brésil, Paris, la France, ton arrivée. Quels autres lieux comptent pour toi dans le monde ?
Waouh, il y en a beaucoup. Bah, oui. Bien sûr, le continent, l'Afrique, pour moi, c'est vraiment... c'est quand j'ai mis mes pieds en Afrique la première fois, j'ai senti vraiment quelque chose de très, très fort. Comme, voilà, les racines sont là, ça y est, c'est ici que tout a commencé. Parce qu'au Brésil, on parle beaucoup de l'héritage africain. Mais une chose, c'est parler, l'autre chose, c'est vraiment d'y vivre, d'y être, de voir ses frères et sœurs et de sentir la force de cette terre et toutes les choses qui se sont passées. Toute l'histoire dure de l'esclavage que nous avons appris, très très peu appris au Brésil finalement. Mm-hmm. Vous savez, le Brésil, c'est peut-être le dernier pays à libérer les esclaves en 1888. Donc nous vivons encore beaucoup des actes de racisme, etc. C'est pas comme le même racisme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont vécu la ségrégation, c'est une autre histoire. Mais au Brésil, nous avons aussi énormément. Les différences sociales montrent qu'une bonne partie des gens qui sont le plus pauvres, c'est des gens métis, les gens noirs. Donc, quand j'étais en Afrique, j'ai senti vraiment ce pouvoir de la richesse, de voilà, la beauté du monde, elle commence ici. Donc, au continent africain, en général, je me sens très, très bien. Et je me sens très bien aussi dans un petit endroit dans le sud de la France qui s'appelle Salernes et dans le Var. C'est là-bas où il y a le studio d'enregistrement de mon producteur, entre autres. Il y en a un à Paris et un à Salernes. Donc, je me sens très bien. Là, c'est mon contact avec la terre, la campagne. C'est là où je suis à nouveau avec mes sources, quoi. C'est toucher la terre, voilà, faire un peu les animaux. Et ça, c'est un peu mon délire aussi. Et Paris, parce que Paris m'a accueilli. C'est ici que je rencontrais des personnes extraordinaires qui m'ont donné la chance de faire ce que je fais jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Le racisme, tu l'as observé, tu l'as subi, tu en as parlé un petit peu au début de cette interview. Quelle forme il a pris, ce racisme, selon les différents lieux où tu as vécu ?
Ça dépend, parce que moi, je ne vais pas non plus... Il faut être très, très clair, parce que moi, je suis métisse. Donc, quand on est métisse, c'est une autre histoire. Le racisme envers les gens qui ont la peau noire foncée, c'est un autre. Il ne faut pas tout mélanger. Là, on parle vraiment, là, on parle de la chose qui est visible et que les gens sont racistes au point. Moi, c'est ce qu'on appelle le fameux passe-partout. C'est-à-dire, si tu lisses tes cheveux, tu passes partout. Si tu es avec une communauté où tes cheveux sont un peu comme ça, où tu es un peu sapé comme ça, tu appartiens à cet endroit. Là où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose de différent, c'était en Afrique du Sud. Parce que là, on sait tous que c'était des années d'apartheid.
Oui.
Et que les choses n'ont pas changé. Je me suis rendue il y a encore 3 ans. Et dans mon groupe, c'est un peu mon batteur Al Chanville qui vient de la Martinique. Il est noir, des couleurs peau foncée. Mm-hmm. Je suis métisse. Et Victor Vague est d'origine franco-hongroise. Il est blanc aux yeux verts. Donc, quand on est toutes les trois couleurs comme ça, en Afrique du Sud, voilà, Johannesburg, etc. Les gens, ils nous regardent vraiment. C'est-à-dire qu'ils se demandent, quand on rentre dans un restaurant, si nous sommes vraiment ensemble. Il y a même ceux dans la rue qui disent « Pourquoi vous êtes ensemble ?» Et pour parler plus de mon expérience, au Brésil, c'est très simple. À l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, si tu n'es pas blanc, tu ne vas pas faire de la télé, tu ne vas pas être une chanteuse très, très connue parce que tu n'es pas complètement blanche, claire, blonde, plutôt allemande, parce qu'au Brésil, il y a aussi beaucoup d'immigration ukrainienne, allemande, etc. Donc, il y a beaucoup de blancs, des yeux verts, etc. Mm-hmm. Donc, à la télé, il n'y avait que ça. Donc, déjà, tu es mort, tu es métisse, tu ne vas pas. Et ici, voilà, c'était un peu... Ça m'est arrivé, bien sûr, mais ce n'est pas du tout comparable aux personnes qui sont noires, des peaux, qui vivent vraiment des vrais, vrais problèmes.
Oui.
Je préfère ne pas... Je l'ai vécu, mais jamais à la même échelle.
So Sweet Planet, donc, c'est... On parle souvent de culture, de droits humains et d'environnement. Est-ce qu'il y a des personnalités engagées pour la culture, les droits humains ou l'environnement que tu trouves inspirantes?
Moi, j'aime bien Greta parce que... déjà, je suis très admirative. Je sais que c'est une maladie, mais je suis très admirative des personnes qui... Je crois qu'elle a Asperger. Mm.
Une forme d'autisme.
Une forme d'autisme qui n'est pas simple dans la vie de tous les jours. Je le contacte avec quelqu'un qui a cette forme d'autisme et que c'est une bataille de tous les jours pour pouvoir vivre en communauté. Et le fait qu'elle s'ouvre à ces points au nom de la planète, au nom de tous, toutes les populations du monde entier, qu'elle dépasse sa maladie pour vraiment essayer de faire un maximum pour sauver la planète. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. Si jeune et déjà en train de faire tout ce bruit. Et il y a vraiment un avant et un après Greta, quoi. Je pense que je peux le dire parce qu'au Brésil, nous avons la première grande conférence mondiale pour le climat, c'était la ECO 92.
Ah oui, à Rio. Oui.
À Rio, exactement. Oui. C'est là, vraiment là où tous les dirigeants du monde entier se sont concentrés pour parler de ça.
Oui, il y a une ça a été un marqueur historique dans l'histoire de par rapport au climat et voilà, à toutes les prises de conscience.
Tout à fait. On parle beaucoup de COP 21, mais on a oublié la ECO 92, que c'est là que ça a commencé. Ça donnait le pontapé initial. Et donc, tout a commencé là-bas. Et après, il y a eu un trou. Il y a eu Kyoto. Voilà, on a parlé un petit peu. Et il y a eu Greta. Voilà, donc je pense qu'il y a un avant et après Greta par rapport à la conscience générale. Même pour ceux qui sont anti-Greta, ça me fait plaisir qu'ils en parlent. Parce que ça veut dire que le sujet, il est sur la table et on va parler. Même les climato-sceptiques, je n'apprécie pas du tout, je préfère qu'ils soient là. Qu'il ne soit pas là, parce qu'à partir du moment que les climato-sceptiques qui sont là, ça veut dire qu'on peut aller contre eux et on peut faire un débat. Donc on peut en discuter. C'est quand on ne parle pas du tout qui est problématique.
Oui. Et alors au Brésil, là, c'est vrai que depuis quelque temps, c'est c'est assez terrible avec Bolsonaro et toutes les décisions qu'il peut prendre, parce que lui, c'est même pas climato-sceptique, c'est négationniste. Quoi,
bah c'est le panier est plein.
Voilà, donc l'Amazonie, les peuples autochtones, toutes les petites avancées qu'il y avait pu avoir ont été balayées. Est-ce que ça aussi, tu suis par rapport à l'écologie, à l'environnement, tout ce qui se passe actuellement au Brésil? Parce que même moi qui ne suis pas brésilienne, j'en entends pas mal parler du coup, hein, maintenant, de ce qui se passe au Brésil. Puisque l'impact va rejaillir sur nous tous. Parce que l'Amazonie, c'est un des poumons de la planète. Donc, si on ne défend pas ce qui se passe par rapport à la déforestation et par rapport aux peuples autochtones qui préservent un rapport à la nature, on en parle de plus en plus quand même maintenant, de se rééduquer un peu pour notre rapport au vivant. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces peuples qui ne sont pas partis dans cette consommation effrénée comme nous, ici. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, toi, par rapport à ton lien avec ce qui se passe au Brésil, par rapport à ça?
Le Brésil, c'est ce pays qui, je dis depuis toujours, il y a deux faces. Parce que quand je suis arrivée en France, c'était le début de ce qu'on appelle le marché équitable. On commençait...
Ah, le commerce équitable.
Voilà,
oui.
Le commerce équitable. Ouais. Voilà, on commençait le commerce équitable, on commençait à parler, alors qu'au Brésil, on faisait ça depuis des années, tout simplement parce que nous étions pauvres. et que c'était beaucoup plus simple de faire pousser son petit potager, de commencer à partager les choses entre les communautés, de faire des petits élevages pour les gens qui ne sont pas loin. C'est parti de ça. Le recyclage, le travail profond avec le recyclage, nous faisions déjà depuis des années au Brésil pour les mêmes raisons. Parce que les Brésiliens ont découvert que grâce au recyclage, ils pouvaient survivre de ce recyclage aussi. Ça veut dire travailler, gagner de l'argent, etc. Donc tout ça était fait pendant des années au pays. Nous étions dans la bonne voie, en fait. Quand je suis arrivée ici, que les gens commençaient à parler de marché et commerce équitable au pays, ça se faisait depuis très longtemps. Et voilà ce qui s'est passé. La face de la monnaie était tournée. Le Brésil a changé de face. Et nous sommes allés vers complètement le contraire. Ça veut dire une consommation effrénée des viandes, de tout ce qu'on veut. Beaucoup d'OGM, parce que le Brésil, c'est quand même un des plus grands exportateurs d'OGM au monde. Le Brésilien a commencé à consommer son propre OGM, ce qui finit dans des maladies. Ensuite, la déforestation, parce que ça fait partie de l'industrialisation de le pays aussi. Le pays, il veut grandir, mais s'il veut grandir, il faut qu'il fasse de la déforestation. Le Brésil, c'est un grand vendeur de viande, exportateur de viande dans le monde entier. La déforestation est entre autres pour ça, dans le but de l'élevage. Donc voilà, c'est des histoires de... On a le bon et le mauvais côté de la monnaie, c'est comme ça. Le Brésil, tous les 10-15 ans, il y a des cycles où il tourne la monnaie et on verra où on va. Donc là, c'est ce côté-là, nous sommes en déforestation effrénée, les peuples autochtones, les Indiens, c'est un massacre qui existe depuis très très longtemps. Je pense aussi qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'information elle va beaucoup plus vite. Il y a 15-20 ans, les gens d'ici n'avaient pas toutes ces informations-là. On savait que ça brûlait un peu vite fait, mais aujourd'hui, on peut voir les images. On peut avoir des gens sur place. On a les images en direct, donc le rapport, il change.
Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur la musique. En 2015, je crois, il y a eu une rencontre avec Cherlo. Enfin, on dit Cherlo.
Oui, Cherlo.
Oui, Cherlo. Qui est invité sur un titre que j'adore, qui est depuis longtemps sur la playlist So Sweet Planet sur Spotify. Et le clip est magnifique aussi. Je l'ai re-regardé hier. Le clip est magnifique. Vraiment, ce titre est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre ?
Bien sûr. Alors, Cherlo, j'ai connu sa musique quand j'ai chanté au cabaret avec tous les musiciens, le cabaret de musique du monde.
À Paris.
Donc, il y avait 5-6 musiciens d'origine sénégalaise. Et eux, ils jouaient souvent de Cherlo. Ils me faisaient écouter de Cherlo. Donc, j'étais fan, inconditionnée. J'adorais et tout. Et un beau jour...
Sans l'avoir rencontré. D'accord.
Un beau jour, genre 3 jours avant que je fasse mon premier Olympia, avec mon nom en rouge tout en haut de l'affiche, etc., je m'étais dit, voilà, je ne vais pas faire de musique ces 3 jours-là, je vais me reposer, regarder des séries, attendre le grand jour. Ben, il se trouve que Cherlo, 3 jours avant, il vient au studio de mon producteur Victor Vague pour enregistrer des voix. Et bien sûr, je voulais à tout prix le voir. Et mon producteur, il dit, tu sais, il va enregistrer. On attend la fin d'enregistrement. Tu passes vite fait pour le voir. Entre-temps, il y avait un morceau qu'il cherchait une chanteuse. Et dès que mon producteur a raccroché, il m'a rappelé à nouveau. Il dit, tu sais, Cherlo veut te rencontrer. Je parlais de toi, il veut te rencontrer. Il a écouté, il veut que ça soit toi. Et tout de suite, j'ai pris mes affaires, je suis allée enregistrer le titre, je l'ai rencontré et ensuite, Cherlo est devenu un vrai ami. Je me suis rendue au Sénégal, bien sûr, déjà pour tourner le clip, je suis allée chez lui. Et c'est encore un de ses rêves, c'est que la musique qui a pu m'apporter, quoi, de faire des rencontres telles quelles. Cherlo, il y a carrément son quartier à son nom. Je l'appelle, c'est le maire du Sénégal, tellement il connaît tout le monde. Et quel musicien, qu'il y a tout fait, il y a tout vu, il y a tout vécu. Encore une fois, c'est cette espèce de grand tonton qui est là pour nous parrainer, pour nous aider, pour nous donner des bons conseils.
Et puis une personnalité très respectée, hein, au-delà des frontières de son pays.
C'est un homme qui revendique la musique. Cherlo a toujours joué du jazz, de la musique caribéenne, un peu d'imbala. Il n'est pas du tout dans le stéréotype qu'on attend des Sénégalais, au contraire. Et il a joué avec des musiciens du monde entier, les musiciens de James Brown... les musiciens caribéens. Et pour le clip, voilà, c'était 4-5 jours de tournage dont nous sommes allés dans le Ciné Salom, qui est vraiment à quelques heures de Dakar.
Dans le
Ciné Salom. C'est un lieu 400 heures de Dakar, où nous sommes allés tourner une partie des images du clip. Et c'est un souvenir indéniable.
Une belle rencontre, alors.
Très belle rencontre.
Mais je suis heureuse d'entendre ça, parce que c'est vrai que le clip est magnifique, le titre est magnifique, la voix, tout est beau dans cette histoire, apparemment.
Merci. Ah, vraiment.
Plus récemment, il y a une rencontre avec Gaëlle Faye sur le titre « Ballade brésilienne ». Et là, il y a une autre belle rencontre aussi, alors, assez étonnante. Ou...
Alors, Gaëlle, on se rencontrait depuis 2015, en fait. J'ai découvert son premier album, Piri Piri sous un croissant vert. Je connaissais le groupe qu'il chantait à l'époque, ça s'appelait Milky Coffee Sugar. Et en même temps, j'avais vu les affiches de Piri Piri dans le métro. Et j'avais adoré l'affiche, et j'écoutais le disque, et j'étais enchantée par le disque. Je me disais, mais lui, il faut que je le rencontre, il faut qu'on soit amis, c'est tout. Mm-hmm. Et je vais tout faire pour.
C'était une évidence.
Donc, il donnait un ami que nous avons en commun, un artiste, donnait un concert au Trianon. Et ce soir-là, comme par hasard, il était là, il chantait. Donc, il sort des scènes, je suis allée le voir direct, je lui ai dit, voilà Gaël, je t'adore, j'adore ce qu'écrit, il faut vraiment, ce que tu écris, il faut vraiment qu'on soit amis. S'il te plaît, viens, on reste amis. Et tout de suite, il me dit, tu sais quoi, mais mes enfants écoutent ta musique, ma femme écoute ta musique, bien sûr, on sera amis. Et peu de temps après, je l'ai invité à chanter un morceau avec moi dans mon 12e album. Mm-hmm. Et on se croisait dans des concerts, etc. Et là, quand il a sorti son dernier album, il m'avait invité dans Ballade brésilienne, qui est un épée d'ailleurs. Et voilà, et nous avons toujours gardé cette amitié. Que voilà, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée, en fait. Si tu as envie de voir les gens, va les voir. Dis-leur que tu les admires, que tu l'aimes. Et c'est comme ça, la vie, qu'il ne faut pas avoir peur des gens.
Il y a un très beau clip aussi, d'ailleurs, sur ce titre.
Oui.
Qui a été tourné
en banlieue parisienne. On dirait que ça a été fait à Rio.
Oui.
Mais le Réal, il a fait un super boulot.
Bon. Alors sur DNA, donc ce dernier album, il est question de pauvreté, de crime organisé, de corruption, mais aussi de renaissance, d'invitation à bouger, à se libérer. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte dans lequel tu as écrit cet album ?
Il y a deux contextes.
Oui,
c'est ça. Ouais, il y a deux contextes. Parce que
il y a une rupture là aussi.
Il y a une rupture là aussi, à nouveau. Flavia, la femme à rupture.
Oui, mais c'est, tu en fais toujours des choses constructives.
Tout à fait. Ah non, mes ruptures sont toujours pour la construction. Ouais.
Oui.
Je suis plutôt de ce truc-là. On casse le château de cartes pour en faire un autre encore plus beau, plus grand.
Voilà, tu ne laisses pas les cartes à terre. Tu reconstruis.
Ah non, je les ramasse. Je les organise et on fait à nouveau.
Oui.
Alors, j'étais en Afrique, j'étais à Mozambique quand je commençais à écrire le disque. D'ailleurs, DNA, parce que j'étais en Afrique.
Oui,
et
on va en
les
parler.
Les retrouvailles avec mon métissage, mes racines. Surtout quand je parle encore le portugais en Afrique, là, c'est encore plus fort. Vraiment.
Dans les pays qui ont encore...
Lusophones,
voilà.
Donc là, c'est encore Cap-Vert, Mozambique, Angola, encore Saint-Thomé.
Oui.
Voilà, c'est encore très fort.
Et donc, les pays qui ont des très belles musiques aussi.
Ah,
hein.
Mais c'est extraordinaire. Funana, oui. Voilà, c'est un délire. Et donc, je suis là-bas et je commence à écrire DNA. Donc, j'étais vraiment... Depuis toujours, le métissage, c'est quand même le fil conducteur de tous mes albums, de toute mon écriture. Ça fait partie de ce que je suis.
Oui.
Donc, je n'ai pas à m'éloigner de ça. Donc, je commençais à écrire DNA, qui donne le morceau qui donne le nom à l'album.
Mm-hmm.
Je rentre à Paris et je continue à suivre les infos. Et voilà, tout indique que le monsieur qui est en ce moment le président va remporter le scrutin. L'hécatombe arrive, je suis vraiment très très mal. Je passe 12 semaines chez moi, enfermée, en train de me poser un tas de questions parce que j'étais vraiment partie pour un disque joyeux. Voilà, on va parler de cette richesse du Brésil et
plein
tout,
d'espoir.
Du monde entier, parce que plus que jamais, du monde entier, parce que plus que jamais, il faut parler du métissage. Il y a les réactionnaires, les négationnistes, tous ceux qui veulent nous éloigner, nous séparer. Et moi, je voulais taper là-dessus. Finalement, au bout de 12 semaines de réflexion, je ne pouvais pas non plus faire un disque où je ne parlais pas de ce qui était en train de se passer là, tout de suite, dans mon pays, à
vrai
dire.
Mais tu ne pouvais pas ignorer.
Je ne pouvais pas ignorer.
J'aurais été curieux, surtout par rapport à ta personnalité, à ce que tu avais déjà écrit dans les albums précédents, où la vie, quand même, du monde est imbriquée dans ton
histoire. Bien sûr, ouais. Et surtout que dans les albums précédents, j'ai écrit des choses qui concernent tout le monde. Voilà, des sujets que... c'est des sujets... Il y a quand même une universalité dans ce que j'ai écrit avant. Et là, c'était vraiment écrire sur l'actu. chose que je n'avais jamais fait.
De ton pays d'origine.
L'actu de mon pays d'origine. Voilà, ça se passe maintenant, il faut écrire maintenant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Je ne suis pas journaliste. C'est, pour moi, c'est un truc de journaliste.
Oui, quoi. Oui.
Parler de l'actu.
Oui.
Et donc, j'ai dit, vas-y, il faut vraiment que je le fasse. Parce que dans quelques années, j'ai envie de me regarder dans un miroir et que je ne peux pas faire de la musique zinzin, sachant que le Brésil est en feu et à sang, quoi. Comment, et même pour défendre ce projet, comment je vais aller voir les gens, les journalistes qui savent, et les personnes qui m'admirent, qui m'achètent mes albums, qui viennent me voir en concert. Je ne peux pas le voir et dire que voilà, tout va bien, non, viens, on vit de la musique va nous sauver.
Oui, c'est comme pas... si tu étais indifférente en fait.
Exactement.
Ce n'était pas trop possible.
À l'indifférence, c'est juste quelque chose qui ça n'existait pas chez moi. Il faut vraiment que vivre les choses là comme elles sont, dire telles qu'elles sont. Donc, oui. C'était compliqué. Il y a un morceau, par exemple, Cidade Perdida, qui est celui vraiment que je dénonce vraiment les choses comme elles sont dans mon, à Rio de Janeiro. J'ai dû l'enregistrer, je ne sais pas, 700 fois. La prise jusqu'à ce que je trouve vraiment le ton juste. Pour, parce que pour moi, c'était ça qui était important. Ce n'est pas seulement d'écrire, c'est d'écrire de façon juste. Ce n'est pas utilisant des gros mots, ce n'est pas en faisant des offenses, en étant irrespectueux. C'est les mots justes et le vocabulaire, il est assez vaste pour les mettre ces mots-là et les voir et pouvoir leur dire ensuite. Parce qu'une chose, c'est écrire, l'autre, c'est de les assumer vraiment.
Oui.
Et pour moi, c'était important d'écrire des choses justes. Voilà.
Et donc, cet album est sorti avec tout ce que tu racontes. Est-ce qu'il y a eu des réactions côté Brésil?
Peu. Surtout que je devrais à l'époque sortir une réédition de mon premier album au Brésil avec une maison de disques. Et la première chanson qui a été choisie, c'était une chanson qui s'appelle « Sunshine ». C'est une chanson qui parle des conditions carcérales au pays, dans les prisons, etc.
Carcérales.
Carcérales,
oui.
Pardon. donc, ils n'ont pas... La maison de disques, elle a dit, bon, bah, vous savez, le Brésil, ça... Bolsonaro va... Mince, j'ai dit son nom. Il va remporter le scrutin. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très énervés au pays maintenant. Peut-être que ce n'est pas le moment de sortir son morceau ici. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas m'y rendre au pays pour la sortie de cette réédition, ni non plus pour le nouveau disque que j'étais en train de faire. J'ai eu quand même pas mal de haters du côté...
sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux.
Qui, eux, défendent ce qui est en train de se passer. Alors.
Exactement.
Et parce qu'il faut rappeler qu'ils sont nombreux, puisque ce président a été élu.
À 54% de scrutin, quand même. Mmh. C'est une démocratie qu'il a élue.
C'est ça. Donc, c'est ça qui est inquiétant pour la démocratie, avec voilà, ce qui se passe pas qu'au Brésil. Hein.
Exactement. Donc, dont aussi de Brésiliens qui sont aussi ici en France, qui disaient que je disais de la connerie, que c'était n'importe quoi, que j'étais inassistée, etc. Il y a eu aussi quelques personnes un peu plus importantes qui ont balancé des mots voilà, sur Twitter. Mais ce n'est pas grave. Moi, le plus important, j'ai pris la décision de rester ici et de dire haut et fort tout ce que je ne pouvais pas dire là-bas. Voilà, c'est cette décision-là que j'ai prise. Je ne voulais pas y aller là-bas et me trouver face contre un mur, parce que c'est exactement ça ce qui se passait. Les gens, ils ne voulaient pas croire. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. Il y a une bonne partie des gens qui demandent la dictature encore au pays. Donc, aller là-bas pour avoir ma bouche fermée et ne pas pouvoir dire mon discours, je préférais rester ici et avoir tous les médias que j'avais ici, lesquels je pouvais parler, m'exprimer de façon claire, sans me faire couper ni censurer.
Oui. J'avais fait au début de Sociedad Planète une interview d'une association qui s'appelle Autre Brésil.
Bien sûr, je connais.
Tu les connais ?
Ouais, ouais, ouais. Voilà.
Et du coup, on avait beaucoup parlé. Et comme je les suis sur les réseaux sociaux depuis, parce qu'ils sont très actifs et ils font un très beau festival de documentaires tous les
Tout
ans
à fait.
De films brésiliens. Et ça donne l'occasion vraiment enfin pour moi en tout cas, qui suis loin, qui n'ai pas d'attache particulière avec ce pays, de mieux connaître, de mieux comprendre tout ce qui s'y passe, aussi bien justement au niveau de l'environnement que des questions LGBT. Ils ont beaucoup suivi l'assassinat de Marielle Franco et toutes ces questions dont on parle un petit peu, mais ça fait partie des actualités de l'étranger, donc c'est pas toujours très développé. Donc moi je trouve ça intéressant parce que c'est quand même il y a beaucoup de monde au Brésil. Je sais pas combien il y a, tu sais, non?
On est 225 millions à peu près.
Voilà, donc ça représente quand même un certain nombre d'êtres humains sur la planète. C'est bien de s'y intéresser. Le titre de l'album, donc, c'est le titre d'une chanson, tu en as parlé, DNA, donc ADN en français. Qu'est-ce que tu y dis dans ce texte? Et toi, est-ce que tu connais un peu ton héritage, tes héritages, et comment tu les décrirais?
Alors, dans ce texte DNA, je parle vraiment de la beauté, que c'est de s'accepter et accepter tous nos traits, toutes nos marques, nos corps, nos cheveux, nos yeux, nos façons d'être, de vraiment prendre le cru, la base, qui est pas forcément le père, la mère, le père, la père. Je dis pas ça, je dis vraiment tout, pas que l'ADN qui vient de la cellule, mais aussi qui se construit de notre entourage, qui construit notre personnalité. Pour moi, le métissage, il y a de ça aussi dedans. C'est pas que biologique, c'est aussi une fois que tu es sorti, ce que tu apprends avec les personnes de ton entourage. Et aussi, bien sûr, l'acceptation de soi, l'acceptation de ses petits défauts, de les mettre en valeur, de ne pas croire que ça, ce sont des défauts, ce sont aussi la qualité de chacun, qui c'est les autres qui nous pointent ça comme des défauts. Donc je parle beaucoup de ça aussi, de cette acceptation-là. Ensuite,
est-ce que toi tu connais un peu ton héritage, oui, tes héritages, et comment tu les décrirais?
Oui, donc normalement il y a du portugais, il y a du mozambicain, il y a des indiens aussi.
Indien d'Inde ou indien du
Brésil.
D'Amérique?
Indien d'Amérique du Sud, d'accord. Ouais, c'est ça, de base c'est ça. Autochtones Brésil, donc les indigènes du Brésil, Mozambique et Portugal. Et Brésil, beaucoup. En fait, c'est surtout beaucoup Brésil, hein, parce que là, cette partie Mozambique-Portugal, c'est d'après les récits des tantes, des arrière-tantes que je n'ai pas trop. Je n'ai pas connu aucun de mes grands-parents, mais il y a de. Je sais ça par rapport au lieu, en fait, parce que ma mère est née à São Luís do Maranhão, où il y a une grande, c'est au nord-est du Brésil,
d'accord,
où il y a une grande communauté portugaise, mozambicaine, indienne. Mon père aussi, 100% Brésil, donc mon père, je ne connais pas. Et Rio, voilà, c'est le métissage de Rio, il y a de tout, des blancs, des noirs, des indiens, de tout. Quoi.
Oui. Il y a une série là, que j'ai commencé à regarder sur Netflix, dont on parle apparemment pas mal aux États-Unis, qui est en français, je ne sais pas pourquoi ils ont. Enfin, le texte c'est en français, c'est La part du lion. C'est sur les origines, l'influence de la cuisine africaine-américaine sur la cuisine américaine d'aujourd'hui. Mais la série part des racines de cette cuisine africaine-américaine. Donc le premier épisode que j'ai commencé à regarder il y a quelques jours, et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec toi, ils partent au Bénin pour venir vraiment retrouver les racines de leur cuisine. Et du coup, ils sont très surpris de découvrir des liens qu'ils ne pouvaient pas connaître, évidemment, tant qu'ils n'étaient pas allés sur place. Est-ce que toi, tu as vécu des choses un peu de cet ordre-là?
Tout
quand
le
tu
temps.
Es allé au Mozambique et au...
Oui. Non, mais même partout, parce qu'au Brésil, c'est ça, en fait, l'histoire. Au Brésil, c'est... on dit même qu'il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Et nous avons une énorme communauté japonaise qui a fui les guerres de Hiroshima et Nagasaki, les bombes. Donc, on a énormément des Asiatiques, des Turcs, des Persans, des gens du Maroc, il y en a de partout. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que plus je voyage, plus je retrouve la cuisine de mon pays. Et c'est là où je vois que le Brésil, vraiment, le Brésil appartenait aux Indiens autochtones qui vivaient dans ce pays, qui se sont fait massacrer. Pour moi, c'est plus je voyage, plus je vois que c'est vraiment le vrai héritage brésilien, c'est celui-là. Ce sont les Indiens qui étaient sur place avant les grandes colonisations, avant les grandes invasions. Tout le reste du Brésil, le Brésil vient complètement d'ailleurs. Le Brésil, ça, je pense que le premier véritable Brésilien, il est né maintenant 500 ans après la naissance du Brésil. Parce qu'on va, on retrouve de la cuisine brésilienne partout où on va.
Oui.
Partout, en Turquie, en Afrique, je ne me suis pas rendue encore aux États-Unis, mais en Espagne, le Portugal, c'est carrément la cuisine du Brésil, parce que c'est le pays qui était colonisé par les Portugais. Donc, mais entre autres, c'est extraordinaire. C'est le Brésil, il est grandi de ça, donc, il est né de ça, donc c'est impossible de ne pas parler de métissage au Brésil, c'est impossible de faire des séparatismes au Brésil. Et pourtant, il y a des gens qui essaient de le faire, mais c'est juste impossible, envisageable.
Donc, est-ce que tes textes parlent tous sur le dernier album de faits réels ?
Pas tous, tous.
Il y en a qui sont un petit peu romancés.
Il y en a quand même qui sont un peu romancés. Mais ça reste quand même... Ouais, j'en doute parce que c'est vrai que j'essaie de séparer l'actu des ressentis. Il y a les morceaux qui sont écrits basés sur l'actu et il y a d'autres qui sont plus intimes, des sensations intimes des uns des autres. Comme, bien sûr, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires des amours qu'on ne peut pas y vivre parce qu'il y a une partie de la société qui stigmatise encore. Donc ça, c'est un fait réel. Allez, en effet.
Dans une interview pour le journal Le Monde en mai 2020, tu disais « Cidade Perdida », je prononce bien ?
Parfait.
« Cidade Perdida » est sans doute la plus violente et la plus virulente chanson que j'ai écrite. Là, tu en as parlé tout à l'heure. Cette chanson, donc, qui parle de Rio, il y a aussi un clip que tu as fait, qui est assez sombre aussi. Hein.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en redire quelques mots sur... en fait, qu'est-ce que tu voulais dire dans cette chanson-là ? Parce que tout à l'heure, on l'a évoqué brièvement, mais...
Alors, je voulais parler de ce... Je suis née en 80, j'ai 40 ans. Depuis 40 ans, Rio de Janeiro, c'est synonyme de plage, Garota de Ipanema, et de la violence, de la corruption, du trafic de drogue. Aujourd'hui, maintenant, la mort de Marielle Franco, la mort de milliards d'autres femmes, des féminicides, la mort de milliards de personnes... dans les favelas, des gens qui travaillent, qui
beaucoup
se font prendre par les
balles. Militants pour l'environnement aussi, beaucoup. En Amérique du Sud, là, pas qu'au Brésil.
L'Amérique du Sud, pas qu'au Brésil, bien évidemment. Donc, depuis toujours, j'en ai parlé du Brésil, de ces actes-là, mais ça a toujours été un peu poudré par-ci, par-là. Là, c'est vraiment un bloc où je parle de choses qui se sont vraiment arrivées, comme par exemple, je ne sais pas, ça fait au moins 20 ans, tous les préfets et les maires de Rio de Janeiro finissent en prison. C'est-à-dire qu'ils passent 4 ans au gouvernement et après ils vont en prison pour des énormes détournements d'argent. Dont un dernier qui s'appelle Garotinho, qui était condamné à 300 ans de prison. Et Cabral aussi, notamment, qui est un autre drôle de nom, parce que c'est le nom de la personne qui a découvert le Brésil, qui s'appelait Cabral. Et ce maire, qui est en prison en ce moment, au moment qu'il était envoyé en prison, il jetait des sacs d'argent dans la baie de Guanabara pour se débarrasser des preuves avant que la police arrive. Donc le lendemain, les populations de Rio ont trouvé des billets de 100, de 50 euros qui étaient sous l'eau. Donc pour
pendant
que vous voyez
plein de gens sont dans des pauvretés extrêmes.
Voilà, dans un pays où il y a la pauvreté est quand même quelque chose. Voilà, là, même pendant la période de Covid encore, ils ont détourné l'argent qui était directionné vers les hôpitaux, vers les vaccins. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est une art de vivre, presque, pour les hommes politiques brésiliens, pour certains hommes politiques brésiliens et pour certaines personnes qui sont dans la justice du pays. Donc, c'est de cette chose-là. Je prends vraiment des petits passages, des choses qui ont véritablement arrivé. Les profs qui se sont menacés quand ils ne veulent pas accepter que le trafic passe à l'école. Marielle, bien sûr, les féminicides, cette histoire de l'argent dans l'eau, le musée, bien évidemment, j'ai fini le récit de cette chanson par parler du musée, le seul musée que j'ai fréquenté au Brésil, parce que c'était le seul qu'on avait accès, qui a pris feu tout simplement avec un musée des 200 ans, notre seul musée qui a été créé par le roi, le premier roi de l'époque, qui a pris feu dans l'indifférence quasi totale et qui nous n'en parlons plus.
Il a pris feu par vandalisme ou parce qu'il ne s'était pas entretenu et que ça...
Il n'était pas assez entretenu, il a pris feu, ça a tout brûlé. Je vous invite à regarder, j'ai envie tous les auditeurs de Sous-Suite Planète à prendre des nouvelles sur ce musée, le musée d'histoire nationale du pays qui a pris feu, voilà. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans maintenant, dans l'indifférence quasi totale, qui n'a toujours pas été refait, et nous avons perdu des œuvres énormes, et voilà quoi. Ça, c'est l'exemple d'un pays qui élu Bolsonaro ensuite. Un musée prend feu, et ce monsieur, il arrive ensuite, donc tout est là.
Oui, c'est assez symbolique, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi de la chanson « Garçon-fille » et peut-être du lien
menino,
avec ton
menina.
Enfance ? Tu en as parlé.
Oui, carrément, oui. C'est ça. « Garçon-fille », que ça veut dire « menino, menina », c'est vraiment une histoire de tolérance. C'est l'histoire à laquelle j'ai grandi avec ma mère, surtout, qui était coiffeuse, maquilleuse dans des cabarets et qui s'occupait de la communauté LGBT, surtout. Et plus tard, Ma sœur, elle a fait aussi partie de la communauté. Donc, c'était au début, surtout quand c'était très compliqué aussi pour ma sœur. Aujourd'hui, elle a 30 ans. C'est toujours compliqué. Elle vit toujours un peu... Voilà, c'est pas tout à fait ouvert à tout le monde, son homosexualité.
Oui.
Et pour, voilà... Et la famille, et le Brésil, etc. C'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est moi qui l'ai aidé aussi à parler aux parents, à dire aux parents où on était, qu'est-ce qu'elle voulait être, tout simplement.
Oui, oui.
Et c'est grâce à ces souvenirs de tolérance-là que j'ai eu avec ma mère. C'est grâce à ça, tout l'apprentissage que ma mère m'a donné, qu'on a pu la mettre au goût du jour, pour la mettre tranquille, à l'aise, pour qu'elle puisse dire tout simplement qui elle était. À ses parents, à quelques personnes proches. Donc, de ça, j'ai écrit un morceau, en fait, d'une soirée que nous avons vécue ensemble, notre première soirée LGBT ensemble, tous les deux, où elle était véritablement libre, en fait.
Et elle-même.
Elle-même, où elle était, où elle pouvait être elle-même. J'ai toujours des frissons parce que c'était un moment très fort pour tous les deux.
Oui.
D'énorme bonheur de voir ma sœur enfin libre.
Oui, c'est magnifique parce qu'en fait, il y a l'héritage de ta maman. Si c'est une petite sœur, elle n'a pas connu peut-être.
Non, pas du tout. Elle n'a pas du tout connu ma mère. Elle savait d'ailleurs très très peu de cette partie de ma vie.
Oui.
Parce que c'est une sœur issue d'un autre mariage de mon père.
Oui.
Donc, elle savait très peu de tout ça. Donc, quand je commençais à lui parler et que je le savais déjà, j'attendais juste le moment qu'elle se sent à l'aise pour pouvoir me parler. Et à partir de ce moment-là, je dis, c'est bon, plus de mensonges. Tu dois vivre, tu as le droit de vivre comme tout le monde dans ce monde.
Oui.
Tes choix, ce sont tes choix. Ton état de santé mentale, pour moi, c'est le plus important.
Oui. Et ta maman t'a permis de si j'ai bien compris, ça a rendu banal dans ta vie la tolérance, non seulement par rapport aux homosexuels, et par rapport à la communauté transgenre, pour qui c'est difficile partout, hein, pas qu'au Brésil, mais on en parle de plus en plus en France, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent quand même à ce que les personnes qui se sentent transgenre ou avec des difficultés pour assumer une identité de genre qui n'est pas celle qui est communément admise, que ces personnes puissent le vivre mieux. Au Brésil aussi, il y a beaucoup de personnes qui luttent pour ça, mais il y a aussi des résistances très violentes.
Tout à fait. Hein. Pour moi, c'est le prochain grand combat là, de cette génération qu'on appelle l'anthropocène. C'est le nouveau monde qu'on a.
J'ai fait une interview avec François Gemmel, j'en parle presque dans chaque podcast, avec son atlas de l'anthropocène, où en fait, on rappelle que l'anthropocène, ça veut dire, c'est en fait tous les effets du comportement humain sur la planète que l'on peut aujourd'hui mesurer.
Tout à fait. Donc, dans cette nouvelle ère, moi, je pense que c'est le prochain combat. C'est vraiment... accepter, que les gens ils acceptent la transition les uns et les autres et qu'ils le laissent tout simplement être heureux sans avoir toute cette stigmatisation autour. Je pense que ça y est, on commence à parler. Il y a ce garçon qui s'appelle Océan qui a fait un accompagnement très significatif, très important autour d'un documentaire. Je vous invite à le regarder. Et je pense que c'est ça. Ça y est, on commence.
Sur sa transition, qui s'appelait Océane.
Voilà. Oui. Et aujourd'hui, il s'appelle Océan.
Donc, humoriste.
Tout à fait.
Qui est peut-être toujours d'ailleurs.
Toujours, ouais. Oui. Qui parle de sa transition. Donc, moi, je pense que c'est le prochain grand combat là, de l'anthropocène, entre autres.
Oui.
Que les gens, ils acceptent les transitions et qu'on puisse vivre tout simplement normalement.
Oui, et beaucoup de gens pensent que c'est un phénomène nouveau, mais c'est pas tant que c'est nouveau, c'est qu'on en parle plus. En fait, ça a toujours été là, mais on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas entendre, et donc les personnes n'avaient pas du tout la possibilité de faire savoir que ça existait, qu'elles existaient.
Les propres personnes concernées, elles en mouraient même.
Oui.
De tristesse, de suicide, de prise de médicaments, des gens malheureux, de toutes sortes, toutes formes. On ne savait tout simplement pas.
Oui.
C'est encore un peu long quand même. Nous sommes en 2021, on aurait pu... Là, on est en France, on peut en discuter, mais dans d'autres pays, c'est encore très, très compliqué. Ça ne sera pas du tout pour demain.
Voilà. Quelques mots sur Billy Django. Qui est Billy Django?
Alors, Billy Django, c'est le
titre d'une chanson. Hein,
voilà, le titre d'une chanson. Oui. Et c'est mon super-héros, super-héroïne. Il n'a pas de genre, déjà, Billy Django. Mais c'est celui que j'ai créé, ou celle que j'ai créée, pour aller contre ce monsieur-là qui est sur place, qui a aussi un nom qui commence par B.
Oui.
Mais le mien est beaucoup plus joyeux. Il a passé par toutes les choses difficiles et compliquées dans mon pays aussi, la pauvreté. Pourquoi même pas se mêler un peu dans le trafic pour essayer de manger? Mais ils sont sortis, ils essayent d'aller mieux, ils essayent de faire les choses correctement. Ils essayent surtout d'aller contre le gros méchant loup qui est là-bas en ce moment. Et les révoltés, ou elles, révolutionnaires, essayent de faire le bien, de soigner ceux qu'ils aiment et aussi de se battre quand c'est nécessaire. Parce que parfois, il faut arrêter aussi de faire la militance derrière l'écran. Il y a d'autres façons de faire. Aussi commencer par ce que j'appelle les petites militances, que ce sont celles de tous les jours.
Les qui?
La petite militance, que c'est
ah
celle
oui.
de tous les jours.
Oui.
Ça veut dire des gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui vont beaucoup dans des... qui se disent militants et ils ne font rien finalement, hors faire des articles derrière un ordinateur. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence à voir ses voisins, celui d'à côté, le copain d'un copain. Tout le monde autour de nous a quelque chose à régler. Donc, si on commence à faire la chaîne comme ça, petit à petit... Dans le monde réel, oui.
Dans le texte qui accompagne l'album pour la presse, il est écrit pour le titre « Manda Aboa ». Prononce bien.
Mmh, très bien.
Qui veut dire « je ne vais pas me venger ». Il est écrit, pour tes propos, tu dis « si on se désintoxique des mauvais sentiments, on peut plus facilement être solidaire des autres ». Les mauvais sentiments, c'est quand même quelque chose qui a... C'est un véritable fléau aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et du coup aussi partout maintenant. Enfin, je ne sais pas si l'un est la conséquence de l'autre. Le fait qu'on ait ça maintenant dans le monde réel, est-ce que ça vient du fait que tant de personnes se soient désinhibées sur les réseaux sociaux
et, carrément, décomplexées même.
Voilà. Donc, si on se désintoxique des mauvais sentiments, on peut plus facilement être solidaire de l'autre. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu?
Bien sûr, c'est sortir de son nombril. Arrêter un petit peu de penser mes problèmes, mes soucis, moi, quoi.
Voilà.
Je pense que quand on est réglé avec soi-même, qu'on dort, qu'on se réveille bien, on est plus solidaire avec ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui ont un toit, une douche, l'eau dans le robinet, ouvrent un frigo, il y a de quoi manger, tout va bien.
Voilà.
Donc, et quand même, on arrive à se faire des problèmes, on arrive à chercher des problèmes. On a cette puissance-là de trouver des problèmes où il n'y en a pas, alors qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes.
Et de créer des problèmes.
Et de créer. Oui, il y a ceux qui en ont tout ça, une richesse incroyable, et on veut encore des richesses, et on cherche des problèmes pour ça. Donc, je pense qu'à partir du moment qu'on sort de cette bulle-là, on commence à voir ce qui se passe autour de nous. Mais tout ça, il y a un travail sur texte, surtout il y a un travail autour de la gratitude. Je suis quelqu'un qui remercie sans arrêt l'air que je respire, mes petits doigts, je peux les bouger, je peux entendre, je peux voir, j'ai le discernement du oui et du non. Je suis très très riche, j'ai cette conscience-là. Donc je pense que quand on a cette conscience-là, on ne pense pas à nos problèmes, on pense plutôt ailleurs. Et qu'aujourd'hui, la planète, voilà où nous sommes. Nous sommes voués à l'échec avec la condition de l'homme aujourd'hui. L'homme s'en fout, ils ne se rendent plus compte de ce qui est en train de se passer. Même avec toute cette conscientisation que nous avons par rapport et le climat, et le réchauffement climatique,
la
les gens connaissent le permafrost, les gens connaissent tout, ils sont au courant de tout, et quand même, ça consomme sans arrêt, voilà, ça casse tout. Vous voyez maintenant la quantité des masques qui sont par terre. Donc, on est voué à quelque chose qui n'est pas bien. Donc,
oui.
Même si je veux être très positif, dans 150 ans, je ne sais pas si on y sera encore. Moi, sûr, je ne sais pas. Mais les prochaines générations, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit Miroton, Greta Thunberg. Donc, voilà, pour moi, il faut être dans la gratitude tout le temps. Et restons dans la gratitude aujourd'hui pour pouvoir aider les générations futures déjà.
Alors, avant de terminer, j'aimerais avoir ta réaction, des réactions sur quelques mots. Le premier mot, c'est humilité.
Humilité nécessaire. Nécessaire pour vivre en communauté. Sans humilité, on ne peut pas vivre en communauté.
Ça va avec la gratitude dont tu parlais juste avant,
carrément,
d'ailleurs.
Ouais, ouais, mais ça, pour moi, c'est la base. Après, l'humilité...
Mais pas pour tout le monde, alors on peut en parler.
Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Donc, je vous invite, si vous avez des problèmes en ce moment, les auditeurs de Sous-Suite Planète, remerciez que les problèmes s'arrêtent.
Oui. C'est une attitude spirituelle.
Complètement.
Qu'on retrouve dans la plupart des spiritualités.
À la Grèce antique aussi, on remerciait déjà. On avait l'habitude de remercier les planètes, la récolte, des choses de ce genre.
Oui. Un autre mot, culture.
culture, la culture, c'est la base pour toute personne qui veut continuer de vivre sur cette planète. Je pense que la différence entre nous et les comment on appelle ça, les gens qui vivent dans d'autres planètes là,
les extraterrestres,
c'est que l'être humain, il y a cette facilité de créer la culture là, il y en a pas, et le faire la développer grâce au discernement de son cerveau. Donc la culture, c'est très large en fait, parce que la culture, ça on peut parler d'une façon de vivre, une façon de manger, une façon de jouer de la musique, une façon de marcher, tout ça pour moi c'est culture. Donc chacun la sienne, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut mélanger tout ça.
Inégalité,
c'est une chose que plus de temps passe, plus j'ai du mal à voir quand on s'en sortira. Je suis née dedans, je pense que je suis encore dedans, presque, n'est-ce que par rapport à mon statut de femme. Donc, on est femme, on n'est pas égale à tout le monde. Quoi.
Oui. Spiritualité.
Spiritualité, pareil, pour moi c'est nécessaire. Je ne suis pas dans la religiosité.
Oui.
J'en étais dans les religions parce qu'au Brésil, on est très religieux, on est élevé comme ça. Mais dès que j'ai commencé à lire les Grecs, les philosophes, ça c'est parti. Mais je suis dans les spiritualités, ouais. Je crois à la nature, je crois à l'être humain. Je crois qu'on peut, on peut s'en sortir, qu'on peut faire des belles choses malgré tout ce qui est en train de se passer. Je crois à l'humilité des uns et des autres.
Street art.
J'adore. L'art éphémère.
Oui.
Celle que tout le monde a accès, que tu n'as pas besoin de faire les grandes écoles pour le faire.
Voilà. Écologie.
Écologie, voilà. L'homme, nature, tout ça, c'est lié. À partir du moment où les prises de conscience sont faites, on peut essayer d'avancer. Ouais.
Résistance,
c'est la base. Quand on est issu de quartiers comme le mien, résistance, résister, c'est survivre. Et moi, je pense que le but de l'homme, c'est de vivre, pas de survivre. Mais pour acquérir ce but-là, il faut continuer à résister, il faut être dans la résistance.
Et un mot qui revient souvent dans tes interviews, empathie.
Et ouais, un mot qui fait... Certains me disent « Ah, j'aime pas ce mot, l'empathie. » Je dis « Bah ouais, je sais que vous n'aimez pas ce mot parce que l'empathie, c'est compliqué de la pratiquer. Ça veut dire de sortir de son état à toi et aller voir vers l'autre. Ça va en rapport avec ce que je dis. Ça, oui. Au départ, la gratitude, en fait. L'empathie, elle apparaît seulement quand on arrête de regarder dans son nombril. On brille et on regarde les autres. On voit la tristesse de l'autre. On voit la nécessité de l'autre. On voit que l'autre n'a peut-être pas cette eau du robinet que tu as si facilement dans ta maison. Ça s'appelle l'empathie, ouais.
Dans une interview sur TV5 Monde pendant le premier confinement, tu conseillais de lire Le Gros Pavé, le gros livre dont on reporte toujours la lecture à l'année prochaine. Toi, qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as quelque chose de marquant que tu as lu pendant cette période?
Alors là, c'est marrant parce que là, pour le coup, je n'ai pas pris beaucoup de gros pavés. Je l'ai lu...
Je fais même un petit pavé. Hein.
Ah, j'ai les souvenirs de Patrick Modiano, très joli. J'ai lu tellement de choses. J'ai lu de Delphine Vigan. Là, j'ai pris plutôt des petits trucs. Après, je suis beaucoup sous l'écriture aussi. J'ai dû m'arrêter un petit peu. J'ai lu Underground Hayward, bien sûr, qui est sorti.
Oui.
Maintenant, c'est sur une série, là, je ne sais plus. Mais oui, bien sûr. Je dis toujours qu'il faut essayer de lire les Dostoïevski parce que ce sont, pour moi, c'est une des plus grandes écritures. Qui a jamais été faite pour parler de cette condition de la pauvreté. En fait, là, on est vraiment, oui, dans des cas d'école où voilà, la pauvreté, la Russie extrême et de la survie. Et pour moi, Dosto, c'est vraiment celui qui décrit en détail. Lui, c'est le roi des pavés. On sait pourquoi il y a les pavés. Mais dernièrement, je l'ai plutôt de petits trucs, effectivement.
Est-ce que tu peux, avant de terminer, nous conseiller quelques artistes brésiliens, alors du domaine musical ou cinématographique ou littéraire ou chorégraphe, ce que tu veux, que tu trouves intéressant aujourd'hui, mm-hmm, et qui nous permettrait de nous intéresser un peu plus pour celles et ceux qui sont curieux à ta culture?
D'accord. Il y a une jeune chanteuse franco-brésilienne, je crois que ses parents sont brésiliens et elle est née en France, qui s'appelle Indy. Qui joue une bossa nova, avec une petite guitare très jolie. Elle vient en France, je crois, et elle vient de sortir son album. C'est super joli ce qu'elle a fait.
Ça s'écrit comment?
Y-N-D-I. Indie, uh-huh. Indie, ouais. Okay. Que j'ai déjà entendu, je trouve ça très joli. Après, de brésilien, bon, bah, la musique brésilienne, toujours, c'est super, bien sûr. Il y a Criolo, ça commence à. Des Brésiliens, oui. Ici, les gens, ils commencent à connaître bien, oui. Quand même. Sinon, pour une réalisatrice, j'ai indiqué Petra Costa, qui a sorti justement un documentaire sur Netflix qui s'appelle Démocratie en vertige. Elle a fait justement la, elle a fait un suivi de, des années où, où Lula est arrivé au pouvoir jusqu'à le gouvernement d'aujourd'hui, où ça explique un petit peu comment tout ça est arrivé là. Donc, regardez Petra Costa, Démocratie en vertige.
Très bien. Pour toi, dans les mois qui viennent, est-ce que, parce que je n'osais même plus ces derniers temps poser les questions aux artistes, puisque les scènes, tout est tellement compliqué. Et à chaque fois qu'on parle des projets de scènes et des scènes à venir, on est toujours dans l'expectative à savoir est-ce que ça va être maintenu, est-ce qu'il va falloir reporter. Est-ce que toi, tu as un peu de visibilité sur l'été et les mois qui viennent?
C'est super, nous avons plein de dates.
Bon.
Ouais, j'ai beaucoup de dates par rapport. Bon, bien sûr, on aurait pu avoir beaucoup plus, mais je suis très contente avec déjà tout ce qu'on a.
Donc, pour nos auditrices et auditeurs en France ou hors de France qui souhaiteraient connaître tes dates, ils peuvent aller sur ton profil Facebook
sur toutes les réseaux sociaux ou sur flaviacoelho.fr.
D'accord.
Et là, vous trouvez tout. Tapez Flavia Coelho, date des concerts. J'essaie juste à côté de chez vous. Je suis très contente, vraiment, pour tous les concerts qui reprennent. La vie reprend à nouveau. Merci encore une fois et je vous attends très nombreux à tous les concerts.
D'accord, rendez-vous est pris. Un grand merci Flavia, c'était un plaisir et surtout un plaisir de pouvoir discuter de tes beaux albums, hein, parce que là il est sorti en 2019 le dernier, mais comme tout le monde, comme il y a eu un gros break sur 2020, on reparle d'albums qui n'ont pas encore pu vivre sur scène. Donc un bel album à écouter, les clips aussi à regarder, on en a parlé déjà dans l'interview.
Et les podcasts qui sortent le 9 juin prochain.
Qu'on peut trouver comment? Qui s'appellera
Ça sera sur toutes les plateformes. Ça s'appelle De Rio à Paris.
D'accord.
Ce sont 7 épisodes dont je raconte des petites anecdotes croustillantes du jour où j'ai quitté Rio de Janeiro jusqu'à la première fois où j'ai chanté sur la scène de l'Olympia à Paris pour la sortie de mon premier album.
Ok, ben alors très bien, puisque là on est déjà au podcast, donc on invite à sauter directement sur tes autres podcasts pour en savoir encore plus, et puis surtout à aller écouter ce très bel album. Moi j'adore, je l'écoute en voiture, je l'écoute chez moi, ça, et il fait du bien. On a parlé des sujets qui eux sont quelquefois un petit peu difficiles, mm-hmm. Mais la musique, c'est une musique qui met du baume au cœur, on peut dire, et à l'époque actuelle c'est vraiment bienvenu.
C'est ça, c'est pas parce qu'on fait des chansons dures qu'on peut pas danser. Si, il faut danser en étant conscient.
Très, très belle musique. Les musiques sont vraiment super.
Merci.
Merci beaucoup, Flavia. Bonne continuation.
Merci à vous.
À une prochaine, j'espère. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.